Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous le savez, aujourd'hui lundi, les dirigeants de la communauté est-africaine se réunissent à Dar es Salaam en Tanzanie pour tenter une énième fois de trouver une solution à la crise politique que traverse le Burundi. Une semaine après des élections législatives boycottées par l'opposition et dont la validité est mise en doute par la communauté internationale, eh bien Pierre Nkurunziza, le président sortant, refuse toujours de reporter la date des élections présidentielles prévues le 15 juillet prochain. Alors qu'attendez-vous de ce sommet de la communauté est-africaine, comment sortir de l'impasse? RFI lance le débat. Nous attendons vos commentaires, vos réflexions au 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, nous commençons, comme tous les jours, avec vos questions pour mieux comprendre et décrypter l'actualité avec ce matin. Eh bien, une émission consacrée aux résultats du référendum qui avait lieu hier en Grèce. Et finalement, c'est non. Vous l'avez suivi ce matin dans la spéciale proposée par RFI. Les Grecs ont voté non à plus de 61%. Une victoire pour le Premier ministre Alexis Tsipras qui refuse les plans d'austérité que souhaitaient imposer les créanciers de la Grèce. Mais un saut dans l'inconnu qui soulève énormément de questions. Et vous êtes déjà très nombreux au standard à souhaiter vous exprimer. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. À mes côtés, pour vous répondre, Christopher Dembig. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes économiste de Saxo Bank France et vous allez répondre aux questions de nos auditeurs ce matin. Et le premier auditeur, eh bien, c'est Ken de Likasi au Congo Kinshasa qui vous pose la première question. Bonjour Ken.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne de RFI. Quelle est votre question?
Voilà, bon, je voulais savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la dette grecque et aussi pourquoi est-ce que la Grèce n'a pas su tenir ses engagements vis-à-vis de ses créanciers?
Eh bien écoutez, c'est une très bonne question, hein, puisqu'en tout, c'est une dette quand même de 362 milliards d'euros qu'a contracté la Grèce. Alors comment est-ce possible? Comment la Grèce en est arrivée là? Christopher Dembig vous répond.
Globalement, ce qui est important de rappeler, c'est que déjà depuis de nombreuses décennies, il y a eu un réel problème de collecte des impôts en Grèce, donc effectivement un État qui n'a pas su gérer efficacement ses finances publiques. Mais malgré tout, ce n'est pas la raison principale de l'endettement grec aujourd'hui. Ce qui est important de voir, c'est qu'au final, les créanciers ont prêté à la Grèce abondamment, on leur a fait des prêts à des taux qui sont effectivement bas, mais il faut rembourser ces taux d'intérêt. Et le gros souci aujourd'hui, c'est tout simplement que vu la dynamique économique, la Grèce est en récession cette année de nouveau. Manifestement, l'État n'a pas suffisamment de liquidités, les agents économiques n'ont pas confiance, donc tout simplement, on a un gonflement de la dette. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement ubuesque. Au final, les Européens prêtent à la Grèce pour qu'elle-même les rembourse. Donc, tout l'argent qu'on donne au final à la Grèce, ce qui est important de rappeler, c'est tout simplement qu'il permet aux Européens d'être remboursés et ça n'entre pas du tout dans le circuit économique grec.
On a beaucoup parlé ces derniers temps, justement, quand on parle de collecte d'impôts, bien de faire payer, de faire... que les riches armateurs grecs et le clergé payent l'impôt. Mmh. Est-ce que ça pourrait être une solution?
Alors, ça peut être tout à fait une solution, mais ce qui est important de rappeler, notamment par exemple pour les armateurs, c'est que les privilèges fiscaux dont ils bénéficient sont inscrits dans la Constitution. Donc cela impliquerait un changement de Constitution, on le sait très bien, c'est toujours extrêmement compliqué, mais c'est une piste évidemment de réforme. Le gouvernement grec envisage effectivement d'aller dans cette direction-là, mais ça reste très compliqué et les créanciers ont bien conscience que ce ne sera pas sur du court terme qu'on aura des résultats.
Alors aujourd'hui, la dette s'élève à plus de 360 milliards d'euros. Ça représente, je crois, 177% du PIB. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y a 5 ans, au début du plan d'austérité, les États européens le savaient déjà. Comment expliquez-vous cette descente aux enfers?
C'est simple. C'est en fait l'austérité. On était en 2009, lors des premiers plans d'aide, à un endettement de 120% du PIB. Donc effectivement, ça a largement gonflé en l'espace de 5 ans. Mais tout simplement, lorsqu'on fait de l'austérité, ça veut dire qu'on a une récession, qu'on a a moins de rentrées fiscales. Quand on a moins de rentrées fiscales, automatiquement, eh ben, on peut moins faire face aux ces exigences et l'État rembourse en empruntant sur le marché financier ou en demandant de nouveaux plans d'aide. Donc, on est dans un cercle vicieux et aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudra effacer la dette grecque en partie. Simplement, quand est-ce qu'on aura l'opportunité politique de le faire? Ça, c'est un autre problème.
Ah, tout le monde est d'accord, selon vous. Parce que on a vu que Christine Lagarde, donc la directrice du FMI, a déclaré qu'il faudrait, qu'il n'y avait pas d'autre choix que de restructurer la dette, voire d'en effacer purement et simplement une partie. Oui. On ne parle pas de l'ensemble de la dette.
Ah, complètement, ce sera une partie, hein. Bien évidemment, on va pas effacer intégralement la dette, mais simplement, aujourd'hui, on est sur 30% d'effacement. C'est à peu près ce qui est évoqué, c'est ce qui est demandé par le gouvernement grec. C'est raisonnable, ça donnerait une marge de manœuvre à l'économie grecque assez essentielle. Maintenant, à savoir quelle sera la position de l'Allemagne, puisqu'aujourd'hui, ce sont surtout les Allemands qui se refusent à évoquer ce débat-là.
Les Allemands qui reçoivent pourtant l'argent que les Grecs enlèvent du pays. Ken, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Effectivement, en tout cas, je suis satisfait. Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir appelé du Congo Kinshasa. Allez, on repasse au standard. 33 9 693 693 70. Si vous voulez poser une question à notre expert économiste de la banque Saxo Bank, Christopher Dembick. Nous sommes maintenant avec Epiphane. Epiphane, bonjour.
Bonjour, Ida.
Bonjour Epiphane, vous nous appelez de Lomé. Quelle est votre question pour Christopher Dembick?
Ok, ma question est toute simple. Je voudrais seulement savoir si la Grèce peut emprunter de l'argent à d'autres partenaires en dehors de ces trois créanciers que sont la BCE, le FMI et la Commission européenne, bon, avec qui on sait que la tension est presque au maximum, quoi.
Eh bien, écoutez, très bonne question. Christopher Dembick vous répond.
Bonjour. Globalement, ce qu'il faut voir aujourd'hui, étant donné que la Grèce n'a pas remboursé le FMI, aujourd'hui, on est sur une impossibilité de négociation et de nouveaux plans de la part du FMI. La seule possibilité, c'est effectivement l'Europe. Si on cherche d'autres partenaires, on pensera bien sûr à la Russie, à la Chine, mais ces deux pays n'ont pas intérêt à financer, à aider, à prêter massivement à la Grèce. On voit la Russie avance ses pions, par exemple, en Grèce et essaye notamment d'acheter des actifs bradés. C'est ce que fait la Chine, mais ce ne sont pas des États qui ont vocation tout simplement à supporter financièrement la Grèce. Donc, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'avoir un accord avec les créanciers européens ou sinon, bien sûr, c'est le scénario catastrophe dû de la sortie de la Grèce de la zone euro et des défauts de paiement en catastrophe.
Vous pensez sincèrement que la Grèce pourrait emprunter à la Russie? On a vu Alexis Tsipras se rendre en Russie et rencontrer Vladimir Poutine, notamment pour tout ce qui concernait les levées des sanctions suite au conflit en Ukraine. Mm-hmm. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait prendre ce risque, sachant que la Grèce n'est pas en mesure de rembourser?
Ah, on sait très bien que la Grèce ne sera pas en mesure de rembourser. Vladimir Poutine, aujourd'hui, est sur une logique. J'acquiers certains actifs grecs qui sont intéressants. Je fais passer notamment le fameux gazoduc en Grèce, le Turkish Stream. Mais globalement, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui pour la Russie de faire un prêt massif à la Grèce. Très clairement, ça peut être au cas par cas sur quelques centaines de millions pour aider éventuellement à payer les salaires, mais il n'y a aucune perspective d'aide massive.
Et puis pour Alexis Tsipras, on se rappelle que cette visite à Vladimir Poutine avait causé un tollé au sein de l'Union européenne, qui a voté ces sanctions notamment. Ça serait encore se mettre à dos l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Complètement. Et aujourd'hui, c'est pas dans l'intérêt des négociations, puisqu'on le voit, le gouvernement grec qui est renforcé du référendum, essaie d'avoir une marge de manœuvre plus importante dans le cadre des négociations. Notamment, on a vu Varoufakis a démissionné, donc c'est un nouveau point essentiel dans cette perspective-là. Il n'y a aucun intérêt à se rapprocher d'un seul coup des Russes, du moins pas dans l'immédiat, si on veut faire aboutir les négociations. Ce serait vraiment braquer les partenaires européens sans raison.
Vous parliez de la Chine, quel est le rôle de la Chine? Est-ce qu'elle est un partenaire crédible pour que la Grèce emprunte de l'argent?
Alors, la Chine a un intérêt économique en Grèce, tout simplement, on a vu, elle s'est positionnée notamment sur le port du Pirée, donc dans le domaine maritime, il y a un réel intérêt. Elle a acheté des obligations grecque en difficulté au début des années 2010, et pour elle c'est simplement un nouveau point d'entrée en Europe pour avoir accès à ce fameux marché européen. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que la Chine est extrêmement vigilante par rapport à ce qui se passe en Grèce. Un ministre chinois avait rappelé d'ailleurs la semaine dernière que ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, ce n'est pas un problème européen, mais ça concerne également la Chine. Donc n'oublions pas aussi qu'il peut y avoir dans le cadre des négociations des pressions de l'extérieur, éventuellement de la Chine ou des États-Unis.
Et oui, nous sommes dans un monde globalisé. Merci Epiphane en tout cas de nous avoir appelé de Lomé au Togo. On repasse au standard et évidemment je vous redonne le numéro de téléphone 39 693 693 70 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, et bien on reste à Lomé. Nous sommes avec Espoir. Bonjour Espoir.
Bonjour Igor.
Quelle est votre question, Espoir?
Ok, c'est la crise grecque, j'ai deux questions.
Nous vous écoutons.
La première. J'aimerais savoir pourquoi l'Union européenne redoute autant le nom gagnant du référendum du dimanche en Grèce.
Allez, et posez votre deuxième question, comme ça on répondra aux deux dans la foulée.
Alors, quelles sont les retombées économiques de cette victoire et pour la Grèce et pour l'Union européenne?
Alors, deux questions en une, Christopher Dembick. Pourquoi est-ce que l'Union européenne redoute tellement cette victoire qui est avérée aujourd'hui du non au référendum?
Alors, tout d'abord, c'est assez simple parce que dans l'Union européenne, on ne fonctionne pas ainsi. On fonctionne via des négociations, des multitudes de négociations, via l'Eurogroupe, via le Conseil européen, mais habituellement on ne fait jamais appel au peuple, c'est extrêmement rare qu'on organise des référendums dans l'Union européenne. Donc cette manière de faire a été mal perçue par les partenaires européens, et ça a été aussi perçu comme un moyen de court-circuiter les négociations diplomatiques et politiques en cours, donc c'est pour ça que ça a été très très mal accueilli, et objectivement personne ne s'attendait à ce qu'on ait un référendum. Donc très clairement, Tsipras a pris tout le monde de court, c'est un beau coup politique, il faut le reconnaître parce qu'il a gagné.
S'il avait perdu, on n'aurait pas dit la même chose.
Tout à fait. Il a même gagné très largement. Et donc, manifestement, ce qui est important de voir, c'est qu'il comprend bien son peuple, puisque tout le monde anticipait quand même que ce soit le oui qui gagne. Donc, il y a quand même cet aspect-là qui est assez important. Il a un levier politique extraordinaire aujourd'hui.
Alors, Yanis Varoufakis a été démis de ses fonctions. Il a démissionné aujourd'hui. Lui était mal vu par l'ensemble des ministres des Finances de l'Union européenne. Est-ce que ça aussi, c'est un beau coup politique d'Alexis Tsipras qui montre à l'Europe qu'il est encore prêt à négocier puisqu'il ne souhaite pas sortir de l'euro, lui, de la zone euro?
Tout à fait. C'est effectivement un beau coup politique parce que le ministre des Finances démissionne sans qu'il y ait de friction et de dissension au niveau du parti. Donc, tout semble une démarche très consensuelle. Donc, c'est un beau coup politique à cet égard. Et surtout, on le savait, Monsieur Varoufakis est un excellent économiste, mais il n'est pas du tout un fin stratège et encore moins un fin politique. Et on a besoin de politique dans le cadre de négociations. Donc il faut quelqu'un de consensuel, une figure consensuelle pour aboutir. C'est tout simplement, il a sacrifié son ministre des Finances et c'est un geste qui a dû être très fortement apprécié à Berlin, a priori.
En même temps, Yanis Varoufakis était dans la ligne de son parti Syriza, élu il y a 6 mois avec un programme clairement anti-austérité. On peut comprendre les Grecs, on peut rappeler certains chiffres, 25% des Grecs qui n'ont plus accès à la santé, un chômage absolument considérable, des conditions de vie extrêmement difficiles quand on vit avec moins de 300 euros par jour. Donc, ils ont été élus, enfin, Syriza a été élu pour un programme qu'il ne pouvait pas appliquer avec ses sanctions et ses demandes de réforme de l'Union européenne. C'est difficile à concilier ces deux aspects.
Ah, complètement. Ce qu'il est important de voir, c'est effectivement que l'austérité a été un échec, mais on a beaucoup critiqué le gouvernement grec ces derniers mois. Il faut reconnaître, par exemple, que l'un des aspects qui est toujours ramené sur le devant de la scène par les Européens, c'est d'avoir un excédent primaire. Aujourd'hui, les derniers chiffres nous montrent qu'effectivement, le gouvernement a un excédent primaire et même meilleur que prévu. Et lorsqu'on parle aussi du manque de confiance, du fait que le gouvernement aurait fait dérailler la croissance, pas complètement, bien sûr, il y a une confiance qui est partie du fait des nombreux remous des derniers mois, mais on a vu d'ailleurs que les chiffres, l'activité industrielle, l'activité de manufacturière, elle a commencé à chuter, à être en contraction dès le mois de septembre 2014. Donc on ne peut pas uniquement blâmer le gouvernement pour les actuels mauvais chiffres économiques. Il est important aussi de voir que tout simplement la Grèce n'a pas de dynamique sur du long terme parce que l'austérité tue la croissance, on le sait très bien.
Et c'est ça, et l'Union européenne s'était basée sur des mauvais chiffres de croissance. Ça aussi, il faut le rappeler.
Ah, exactement, on s'est basé sur des mauvais chiffres de croissance. Le gouvernement grec précédent n'avait pas d'autre choix un peu parce qu'il n'avait pas de marge de manœuvre que de suivre ses prévisions. Après, on s'étonne bien sûr que la Grèce fait moins bien que prévu, mais tout simplement, on avait des prévisions qui étaient erronées. Et ça, le problème, c'est que sur la Grèce, on a des prévisions erronées depuis 2009, très clairement.
Et depuis 2010, c'est le début de la crise économique, avec ce plan de sauvetage, ces différents plans d'austérité. Force est de constater que la dette a continué de se creuser. On était, je crois, à 120-130% du PIB. On est passé à 177% de dette du PIB. Est-ce à dire que l'Union européenne avait tout faux?
Ah, très clairement, l'Union européenne et surtout la FMI qui avait quand même une attitude pro, entre guillemets, austérité. On sait, par exemple, il y a eu des discussions dès 2009-2010, lorsque Dominique Strauss-Kahn était au FMI, il y avait les chercheurs du FMI qui avaient milité, notamment pour, dès le départ, une restructuration de la dette grecque. Ce document n'a pas été présenté, par exemple, au Conseil européen parce qu'on savait qu'il y aurait une opposition allemande. Donc, dans tous les cas, on a suivi une ligne que, même dès le départ, beaucoup d'économistes contestaient sans être pour autant des économistes d'extrême gauche.
Et j'en viens à la deuxième question d'espoir qui nous appelle de Lomé. Quelles seraient les retombées économiques sur la Grèce et sur l'Union européenne? Alors, le si étant trop, puisque le non l'a emporté. Alors,
sur du très court terme, c'est assez difficile à définir. Il faudra voir si on a des négociations. Tant que les négociations aboutissent, on sait de toute façon que c'est une année noire pour la Grèce, c'est une année en termes de récession. L'impact aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe est relativement faible. On l'a vu, les marchés réagissent plutôt bien, un peu dans le rouge, mais c'est pas de phénomène de panique, pas de crack. Donc dans l'immédiat, pas de scénario catastrophe. Mais bien sûr, si on a une sortie de la Grèce de la zone euro, là c'est un autre scénario. A priori, ça voudra dire la confiance qui va s'évanouir un peu en zone euro, mais surtout en Grèce, récession et bien sûr appauvrissement extrêmement important de la population, bien plus qu'il n'est aujourd'hui encore le cas.
Mais le ministre français des Finances, Michel Sapin, a estimé qu'un défaut vis-à-vis du Fonds mondial, du Fonds monétaire international, serait sans grande conséquence. C'est vrai, ça sera sans grande conséquence.
Il a complètement raison. Pour une seule raison, c'est tout simplement que vis-à-vis des marchés financiers, c'est ça qui compte. Lorsqu'on ne rembourse pas un créancier public comme le FMI, ça n'importe pas. Tant qu'on rembourse les créanciers privés, en d'autres termes, dit plus simplement, tant qu'on rembourse les banques, tout va bien. Mais si on ne les rembourse pas, là, c'est là où on commence à s'affoler.
Mais aujourd'hui, la dette appartient aux États et non plus aux banques.
Exactement. Les banques, elles sont le secteur privé exactement exposé à 15%. C'est ridicule. C'est strictement rien. Aujourd'hui, 85% est détenu par les États et les institutions comme la Banque Centrale Européenne ou le Fonds Monétaire International. Donc, d'une certaine manière, c'est pour ça que les marchés ne réagissent pas parce qu'ils savent que la dette, d'une façon ou d'une autre, est le fardeau de la dette, en quelque sorte. Et dans les caisses des États.
Concrètement, si la Grèce ne remboursait pas, combien ça coûterait à la France et combien ça coûterait aux contribuables allemands? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Je crois que pour la France, le contribuable, on parle de 693 euros par personne, c'est ça à peu près?
C'est à peu près cela, tout dépend si on prend en considération toutes les conséquences. Il y a une exposition sur du direct, effectivement, on est plutôt vers les 620 euros. Ce qui est important de voir, c'est que dans tous les cas de figure, un État ne fera jamais défaut complètement sur la dette. Donc c'est simplement une estimation usuelle, un chiffre pour avoir un ordre de grandeur. Au niveau des Allemands, de mémoire, ça sera vérifié, je crois que c'est autour des 1000 euros parce que l'Allemagne est un peu plus exposée. Ce qu'il faut rappeler, c'est simplement que même si demain la Grèce fait défaut hypothétiquement sur toute sa dette, ce qui serait improbable, le contribuable ne recevra pas de chèque, puisque ce qui est important de voir, c'est que l'État qui a prêté à la Grèce, ses dettes, elles sont déjà intégrées dans la dette publique. Donc pas de gonflement de la dette, il n'y aura pas d'impact immédiat.
Bon, écoutez, c'est une bonne chose. Allez, on repasse au standard. 33 9 693 693 70. Et nous sommes en ligne avec Mohamed qui nous appelle de Rabat au Maroc. Bonjour Mohamed.
Bonjour RFI, bonjour à tous.
Quelle est votre question Mohamed?
Le non vient de remporter lors du référendum grec. Maintenant, il y a un risque réel que la Grèce sorte de la zone euro. Bon, si la Grèce sortait de la zone euro, est-ce que cette sortie serait-elle définitive ou pourrait-elle y revenir dans le futur?
Eh bien écoutez, c'est une très bonne question Mohamed. Christopher Demby, qu'est-ce qu'on peut répondre à Mohamed? Est-ce qu'une sortie serait définitive?
Alors, c'est assez pertinent parce que justement, certains responsables allemands ont ce week-end dit que la Grèce pouvait sortir temporairement de la zone euro. À titre personnel, je pense que bien sûr, ça va être quand même très difficile lorsqu'on sort de la zone euro d'y rentrer de nouveau parce que ça voudrait impliquer le respect des critères, évidemment, tous ces fameux critères d'endettement, de dette publique, etc. Dans tous les cas, de mon point de vue, si un jour ça devait se produire, ce sera sur du très long terme, 10-15 ans, puisqu'il faudra déjà que la machine économique grecque se remette à fonctionner correctement, donc c'est très très loin de ça. Je pense que lorsque les responsables politiques disent que la Grèce peut sortir temporairement de la zone euro, c'est un moyen surtout d'éviter un débat de fond qui est tout simplement, lorsqu'on sort de la zone euro, il y a assez peu de chances d'y revenir, il faudrait un changement politique et économique drastique, ça impliquerait au moins une ou deux générations supplémentaires, donc je suis assez peu enclin à croire dans cette hypothèse-là.
Mais concrètement, combien coûterait un changement de monnaie si la Grèce revenait au drachme, et qu'ensuite elle revienne à l'euro, est-ce que ça lui coûterait?
Alors, ça lui coûterait énormément. D'abord, le fait de revenir à la drachme, ça implique a priori une dévaluation de 50 à 70% selon les estimations. On a une économie qui importe massivement. Les volumes d'importation sont trois fois supérieurs au volume d'exportation. Donc, ça veut dire qu'une dévaluation ne va pas aider au final l'économie grecque. Et surtout, ce qui est important de voir à moyen terme, c'est que ça va appauvrir la population. Donc, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui. C'est très dur à estimer en termes financiers, mais il n'y a aucun intérêt.
Eh bien, écoutez, merci infiniment. Merci infiniment à Mohamed de nous avoir posé cette question. Merci infiniment Christopher Dembic d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes économiste à la Saxo Bank. Restez avec nous tout de suite, le journal.